La base de drones flottantes iraniennes arrive en mer Rouge. L'armée américaine a fait passer en contrebande du pétrole brut de Syrie vers des bases en Irak. Et le médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne est arrivé à Conakry pour des rencontres avec la junte, la classe politique et la société civile. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le commandant-chef de la marine iranienne a déclaré que la présence des destroyers de la marine de l'armée iranienne avait assuré la sécurité économique du pays sur 2200 km au-delà de ses frontières. Il a fait cette remarque dimanche 21 août lors de la cérémonie d'accueil réservée à la 83e mission navale de la marine iranienne sous le commandement du destroyer Al-Wad qui est revenu dimanche à la ville portuaire de Bandar Abbas, après avoir terminé une mission qui a duré 93 jours. Au cours de sa mission de 3 mois, la flottille a escorté des navires marchands et des pétroliers iraniens en mer Rouge et dans les eaux internationales à une distance de 2200 km des frontières maritimes iraniennes. Le contre-amiral Jahram Irani a félicité ce dimanche 21 août les forces navales pour la protection des intérêts économiques du pays. Il a noté que la présence de la marine iranienne dans les eaux internationales a découragé les ennemis de toute action hostile, soulignant les activités hostiles du régime israélien en mer Rouge. Il a également ajouté que la 84e mission de la marine sous le commandement du destroyer iranien Jamaran a exercé ses missions assignées dans la zone du détroit de Bab el-Mandeb au nord de la mer Rouge et le canal de Suez afin de sécuriser l'artère économique du pays et de protéger les intérêts de la République islamique d'Iran. Le commandant a également déclaré que la décision de la marine iranienne de dévoiler sa première division transportant divers types de drones avait pu changer les équations régionales. Le 15 juillet dernier, la marine iranienne a annoncé qu'elle avait établi sa première mission de transport de drones dans l'océan Indien. La nouvelle division navale se compose de plusieurs navires et sous-marins transportant tous les types de drones de combat et de reconnaissance. La télévision iranienne a diffusé des images de plusieurs types de drones iraniens tels que Pelican, Homa, Arash, Jamrosh, Zubin, Ababil 4 et Bavar 5, décollant de différents navires iraniens et survolant l'océan Indien. Notant que la moindre agression de l'ennemi ferait l'objet d'une réponse écrasante de l'Iran, le commandant-chef de l'armée iranienne, le général de division Abdelrahim Moussavi, a alors déclaré que les forces armées iraniennes étaient conscientes de l'attitude agressive des Américains, d'où la nécessité d'augmenter les capacités défensives du pays. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a annoncé dimanche 21 août le retour de l'ambassadeur du pays à Téhéran dans les prochains jours, dans le cadre du renforcement des relations avec la République islamique d'Iran, conformément à la promotion du niveau des missions diplomatiques des deux pays au niveau des ambassadeurs et suite à l'appel téléphonique le 26 juillet dernier entre Sheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, et le docteur Hossein Amir Abdullayan, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. Saif Mohammad Al Zabi, l'ambassadeur des Émirats arabes unis, sera de retour dans la capitale iranienne dans les prochains jours, affirme le communiqué du ministère émirati des Affaires étrangères. Le ministère a souligné qu'Al-Zarbi aiderait à promouvoir les relations bilatérales avec la coordination et la coopération des autorités iraniennes. L'armée américaine a fait passer en contrebande du pétrole brut de Syrie vers des bases en Irak. Washington continue de piller les ressources énergétiques dans le pays ravagé par la guerre, a déclaré l'agence presse officielle syrienne Sana. Un convoi de 122 camions-citernes chargés de pétrole de la région riche en énergie de Jazira, dans la province de Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie, a traversé dimanche 21 août le passage frontalier illégal de Mahmoudiya vers l'Irak voisin, où sont stationnées des forces et des entraîneurs américains, a rapporté Sana, citant des sources locales à la ville de Yaroubiya. Un autre convoi composé de 15 camions-citernes a quitté les territoires syriens pour l'Irak peu de temps après. Des sources locales ont ajouté que des véhicules blindés appartenant aux forces démocratiques syriennes, FTS, soutenus par les États-Unis, ont escorté les convois jusqu'à leur arrivée au poste frontière. Le samedi 20 août, les comités conjoints de coordination russe et syrien sur le rapatriement des réfugiés syriens ont fustigé le pillage continu du pétrole syrien par les forces d'occupation américaines, affirmant que le pillage est responsable de la situation humanitaire désastreuse dont souffrent les Syriens. Dans une déclaration commune, les commissions ont appelé la communauté internationale, en particulier les pays voisins de la Syrie, à adopter des mesures efficaces pour arrêter le pillage des ressources naturelles du pays arabe et leur contrebande à l'étranger. Ils ont également exhorté les institutions des Nations Unies à jouer un rôle plus actif dans l'aide humanitaire aux Syriens et à entreprendre des projets de reconstruction comme le stipule la résolution 2642 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux organes ont également souligné la nécessité de lever les sanctions imposées aux institutions qui contribuent à la reconstruction des infrastructures et des équipements publics de la Syrie. Ils ont déclaré que Moscou et Damas condamnaient fermement l'occupation des territoires syriens et le pillage des biens nationaux syriens par des forces étrangères. Un ancien ministre yéménite des Affaires étrangères a déclaré que la Légion étrangère française, une force militaire composée de ressortissants étrangers, est arrivée dans la province de Chabfa, dans le sud du pays arabe Yémen, pour s'assurer le contrôle d'une installation gazière. Dans un message sur son compte Twitter, le mercredi 17 août, Abu Bakr al-Rirbi a déclaré que la France se préparait à exporter du gaz depuis l'installation de Balhaf, à la lumière de l'augmentation des prix internationaux du gaz dans le but de réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe au milieu de la crise énergétique mondiale exacerbée par le conflit en Ukraine. Le nouveau développement est intervenu après qu'en juillet, Paris et Abu Dhabi ont signé un accord de coopération énergétique pour la production conjointe de gaz naturel liquéfié, GNL. Selon des informations du début de l'année, la coopération énergétique entre les deux pays vise à assurer le contrôle des ressources gazières yéménites via l'installation de Balhaf, qui appartient à la multinationale pétrolière et gazière française Total. Suite aux commentaires de Kirby, le Parlement du gouvernement de salut national basé à Sanaa a mis en garde contre les mouvements suspects de troupes américaines et françaises dans les zones occupées du sud du Yémen. Le Parlement yéménite a ensuite publié une déclaration mettant en garde contre les activités suspectes des forces affiliées aux États-Unis et à la France, deux des principaux partisans occidentaux de la guerre menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Le Parlement a également appelé à la vigilance face aux tentatives perfides de la coalition d'agresseurs dirigée par l'Arabie saoudite d'entraver la mise en œuvre de la trêve négociée par l'ONU, qui est entrée en vigueur pour la première fois en avril. Il a en outre mis en garde contre le rôle suspect du soi-disant conseil de direction présidentiel mis en place par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui, selon la législature, a été conçu pour faire avancer l'agenda des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Israël pour diviser le Yémen et saper son unité, sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité. Le Parlement yéménite a ajouté qu'il tenait les membres du soi-disant conseil présidentiel responsables des conséquences de leurs actions perfides au Yémen ou à l'étranger, puisqu'ils ne représentent pas le peuple yéménite et n'ont aucune légitimité légale. La France a récemment fait l'objet d'un examen minutieux pour son implication dans la guerre menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise guinéenne, l'ancien président du Bénin, Thomas Yavi Boni, est arrivé à Conakry dimanche soir 21 août. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre guinéen des Affaires étrangères et de la coopération, Maurice Anda Kouyaté, et le représentant du bureau de la CEDEAO à Conakry. Après plusieurs annonces et reports, Yavi Boni est enfin arrivé dimanche, au lendemain de la nomination d'un nouveau Premier ministre en Guinée et d'un léger remaniement ministériel. Selon un communiqué de la commission de la CEDEAO en Guinée publié le 13 août, il prévoit un dialogue inclusif avec les membres du gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires et la société civile guinéenne. Fraîchement nommé médiateur pour la transition politique en Guinée, l'ancien président béninois Thomas Boni Yavi a effectué sa première visite à Conakry le 20 juillet dernier. Lors de cette visite, il a eu des discussions sur le chronogramme de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre le président Alpha Condé, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, favorable à une courte transition, a rejeté le 3 juillet ce délai lors d'une réunion à Accra sans annoncer de nouvelles sanctions contre la Guinée, déjà suspendue des organes de l'organisation. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Israël. Le sultan trahit déjà. alors que la normalisation avec Israël semblait être la condition sine qua non d'un retour en grâce de la Turquie chez le gouvernement américain, les premiers signes d'une trahison commencent à apparaître sur la donne turco-américaine. Au coût économique, dû à la notation négative de Moody's que touche l'économie turque, s'ajoute l'implantation des batteries de dômes de fer israéliens à Chypre, rien que pour écarter les menaces de la Turquie. Le coup dur de l'Amérique contre la Turquie détruira l'économie du pays. Il perturbe le régime d'emprunt, met en faillite les entreprises et renvoie Recep Tayyip Erdogan dans le sombre. Le département américain à la défense ayant explicitement confirmé les crimes de guerre de la Turquie en Syrie, le pays ne peut plus être membre de l'OTAN comme le stipule l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais quels sont les autres effets de cette prise de position extrême de Washington sur l'économie et la politique turque? La dette turque s'élève maintenant à environ 460 milliards de dollars que le pays doit remplacer par de nouveaux emprunts et en rembourser une partie pour rester sur le marché mondial. Son inclusion sur la liste des pays ayant commis des crimes de guerre fait chuter sa cote de crédit, ce qui compliquera le processus d'emprunt et obligera les entreprises turques à obtenir des prêts avec des taux d'intérêt plus élevés ou à se tourner vers le marché obligatoire et coûteux. Dans les deux cas, l'économie turque subira plus de pression qu'auparavant. Moody's, l'agence new-yorkaise de recherche financière et de notation indépendante, a abaissé la note de crédit de la Turquie de B2 à B3 avec une perspective négative, ce qui a provoqué la colère des responsables du gouvernement d'Erdogan, mais en vain. Le mois dernier, l'agence de notation américano-britannique, Fitch, a fait de même en abaissant la cote de crédit de la Turquie de B+ à B avec une perspective négative. De telles démarches se poursuivant, les investisseurs étrangers reçoivent le signal de sortie de l'économie turque. La nouvelle intervient alors que Chypre, à l'autre côté des frontières turques, cherche à acheter le système de défense anti-aérienne israélien dômes de fer, à un moment où les relations entre Ankara et Tel Aviv font couler de l'encre. La presse grecque affirme que les contrats liés à cet accord ont déjà été signés avec Tel Aviv, sans toutefois indiquer une date pour la finalisation de l'accord ni le nombre des systèmes antimissiles que Chypre a l'intention d'acquérir. Certaines sources ont déclaré que la décision de Tel Aviv de vendre le système dômes de fer à Chypre était liée au mécontentement des autorités sionistes de l'éventuelle nomination de Fluke Ulutas en tant qu'ambassadeur turc en Palestine occupée. Ufluk Ulutas est en effet fortement anti-israélien et même antisémite. Ayant fait ses études dans une université hébraïque à Rots, Ulutas maîtrise l'hébreu. Dans un article publié il y a un mois, il a dénoncé l'occupation des terres palestiniennes par Israël et accusé ce dernier de nettoyage ethnique. En outre, il a vivement critiqué dans des tweets la normalisation des relations avec Israël.